La grande table d'été part en goguette, direction le festival de photos Les Rencontres d'Arles. À 13h30, le photographe Christian Lutz viendra nous présenter Eldorado et In Jesus Name, deux projets qu'il expose à la Maison des Peintres et à la Galerie Fichet d'Arles. Les Rencontres d'Arles qui fêtent cette année leur 50e anniversaire autour des thèmes du corps, des limites, de construire l'image. Et c'est dans ce cadre qu'est exposé The House, l'une des déclinaisons de l'Anonymous Project de Lee Schulman et Emmanuel Alkin. Un projet regroupant plus de 700 000 diapositives des années 30 aux années 90, collectées ou acquises. Les plus narratives et expressives d'entre elles sont alors soigneusement conservées et numérisées pour vivre une nouvelle vie grâce aux écrans. C'est de cette résurrection photographique dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Lee Schulman, d'Emmanuel Alkin et d'André Günther, maître de conférence en histoire visuelle à l'EHESS. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Bessery.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Lee Schulman, faut peut-être nous raconter la genèse du projet. Comment est-ce qu'il a démarré? Un achat compulsif, c'est ça, de
exactement
diapositives?
Ça. Je suis assez compulsif comme un collectionneur. J'adorais toujours les diapos. Et un jour, juste sur Internet, j'achète par curiosité un boîte de diapos que je trouve en ligne sur eBay. Et ça arrive chez moi, dans le bureau, et j'ouvre cette boîte comme ça. Et je mets mon main dedans, je sors les diapos et j'ai un moment extraordinaire que je regardais ces diapos qui viennent des années 50. La qualité, la lumière, les petits moments de la vie. Je trouve ça assez extraordinaire que personne ne voulait ces images. Je me souviens que l'achat était à 10 euros, un truc comme ça, et c'est arrivé chez moi. J'avais tout de vie d'une famille d'États-Unis là, à ce moment-là. Et là, j'ai décidé, c'était incroyable, que j'achète encore un. Et depuis cette idée, ça m'arrive, j'appelle Emmanuel et je dis, écoute, j'ai une idée. Il faut qu'on achète tous ces diapos, personne ne les veut. Et ils sont magnifiques, les couleurs sont extraordinaires, les vies qu'on trouve dedans, c'est super, ça m'a rendu très émotif, et le projet était né.
Alors le projet au départ c'est un projet juste de collectionneur, comment est-ce que c'est devenu un projet artistique, photographique?
Voilà, ouais, mais
c'est
un peu ça, je suis un peu un collectionneur et je suis un réalisateur de films, donc j'ai commencé à travailler avec le film comme ça, et comme j'étais un collectionneur, j'adorais les diapos, donc j'ai acheté comme ça et cette idée est venue tout de suite comme ça et j'ai décidé vraiment de juste lancer.
Alors, Emmanuel Alkin, vous avez participé au développement de ce projet. Il y a justement par-dessus les photos amateurs récupérées, les photos personnelles, les photos de famille. Il va y avoir l'œil artistique qui va se poser dessus et qui va faire son tri.
Alors exactement, oui. Lee a eu cette super idée, m'a appelé, m'a proposé de le rejoindre dans cette aventure. Bien évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Moi, je suis éditrice à la base, donc le storytelling, un peu comme Lee, ça fait partie de mon boulot tous les jours avec les photographes avec lesquels je travaille.
Alors storytelling, faut préciser pourquoi, parce que dans le tri qui est fait sur ces photos qui sont ensuite numérisées, c'est finalement un tri sur ce que racontent les photos.
Voilà, c'est ça. Alors en fait, il y a plusieurs choses. Dans le choix des photos, il y a quelque chose de très instinctif qu'on a avec Lee, parce que finalement, ce projet, au-delà de la valeur sociologique, historique qu'il a, il a été vraiment monté autour de l'émotion, autour de l'instinct. Donc en fait, notre choix de photos au quotidien, c'est vraiment une émotion qui vient. Parfois, on se rappelle aussi des souvenirs qu'on a pu vivre quand on était enfant, quand on était plus jeune. Parfois, c'est des cadrages qui sont magnifiques. Parfois, justement, c'est des erreurs, des fautes, des mauvais cadrages, un flou qui est pas au bon endroit, un point qui serait pas au bon endroit, qui nous font justement nous dire que cette image a de la valeur finalement.
André Günther, qu'est-ce que ça vous inspire justement ce double geste artistique? Alors d'abord celui de l'archiviste, du collectionneur, mais aussi celui qui va poser son regard peut-être aiguisé, en tout cas esthétique sur ces photos et qui va en faire des choix.
Ben, ce qui est vraiment très intéressant, c'est l'idée qui contredit pas mal d'idées reçues sur la photographie amateur et la mauvaise qualité de ces images, ce qui est un registre, disons, assez qui reste assez courant de l'approche de l'image vernaculaire. Là, on a quelque chose qui existe de façon permanente dans l'histoire de la photographie depuis très longtemps, et en particulier depuis le début du XXe siècle, qui est ce lien de la production de qualité, de la production professionnelle, avec l'image autoproduite, avec l'image amateur et avec l'authenticité de cette de ce type d'image qui effectivement, on l'entend bien dans les commentaires de nos amis, lui gagne un grain particulier.
Alors vous avez dit vernaculaire, il faut faire un petit travail de définition en règle militaire parce que c'est un genre photographique, le vernaculaire.
Alors voilà, ça c'est Clément Chéroux qui a beaucoup travaillé sur cette notion de vernaculaire. Disons qu'autrefois on appelait ça simplement la photo amateur, avec parfois un peu de mépris. Et donc c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui on redécouvre cette autre production, cette production plus... qui vient d'en bas, qui vient de l'anonyme, et qui donc l'intérêt qu'elle produit, au fond on peut le caractériser de deux façons. Il y a deux sortes d'intérêt pour cette photo. Il y a l'intérêt pour le kitsch, pour les erreurs, pour effectivement les choses qui sont un peu drôles, qui peuvent susciter de la moquerie. Et c'est un intérêt tout à fait possible pour ce type d'image. Mais il y a aussi une autre forme d'intérêt qui est celui pour l'authenticité. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise, qui appartient à l'histoire de la photographie. La photographie nous a appris à aimer l'authenticité.
Alors, Lee Shulman acquiesce, il opine du chef, Lee Shulman.
On a dans un sourire, dans une expression du visage, et les images que vous montrez, voilà, sont pleines, effectivement, de cette espèce de punctum, comme disait Barthes, de point qui vient de la photo, et qui nous attrape, et où on voit quelque chose, et où on va se commencer à se raconter une histoire.
Lee Shulman, sur la question de l'authenticité, vous, le début de ce projet, c'était des photos américaines que vous avez achetées, qui racontaient aussi une certaine époque des États-Unis et une histoire intime.
Oui, c'est ça. En fait, le mot, c'est intime, en fait, ce que je trouve bien. Il y a un côté très honnête de ces images qu'on trouve, parce que par rapport aux autres images, on parle d'amateur, mais un diopo, on prend la photo, on c'est mal cadré, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement de cadre. Quand tu prends cette photo, cet instinct, il est vraiment dans le... On fait pas de cropping après, on travaille pas l'image avec des filtres. C'est vraiment un moment qui... Aussi, c'est comme tu dis, c'est un moment de l'histoire des États-Unis qui est exceptionnel.
Alors, comment vous avez justement circonscrit la période années 30, années 90? Est-ce que c'est ce qui est arrivé spontanément?
Oui, ça arrivait à ce moment-là. En fait, les premiers diopos, ça arrivait à la fin des années 30. En fait, j'étais très étonné par les dates de diopos. Quand j'ai reçu dans mes mains, on tournait les diopos, ils étaient écrits derrière les dates, souvent imprimées sur le carton de diopos. Et j'étais très étonné par, ils étaient très très vieux. Donc, ils dataient des années 40, 50, 60. Et c'était vraiment la période, on va dire ça, dorée de Kodachrome. Des images. Après, ça continue.
Alors, Kodachrome, justement, qui sont la majorité des photos, c'est des couleurs aussi très intenses. C'est une histoire technique, Emmanuel Alkin aussi, qui racontait à travers ses photos une époque où la photographie digitale s'est répandue dans les foyers, où le prix a baissé et où on pouvait voir ces photos, ces diapositives sur des écrans projetés.
Alors, c'est justement ce qui est assez intéressant dans ce projet, c'est qu'on a mille et une manières d'y rentrer. Avec Lee, on y est rentré avec joie, avec enthousiasme, avec toute notre émotion et notre regard, notre sensibilité plutôt. Et il y a beaucoup de choses, c'est un projet qui est organique et on a évolué et on s'est rendu compte qu'on pouvait y rentrer de beaucoup de manières différentes. Là, une qui est très importante, c'est l'histoire de la photographie véritablement. Donc on a découvert aussi avec Lib l'histoire de la diapositive, du Kodachrome, donc à la fin des années 30 aux États-Unis jusqu'aux années 90, 2000 même. Voilà, donc vous parliez des dates véritablement des images. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, on avait plutôt des images qui dataient des années 50 jusqu'aux années 90. Et puis petit à petit, plus l'y achetait certains lots, plus on s'est rendu compte que l'histoire de la diapositive commençait avant. Et on s'est rendu compte que nos images les plus anciennes dataient de la fin des années 30. Donc ça, c'était assez intéressant. Et c'est surtout l'âge d'or de la diapositive aux États-Unis. Et l'autre point intéressant, c'est qu'on raconte aussi une société. Au-delà des émotions que nous, on peut avoir quand on sélectionne, on raconte une société américaine, on raconte des belles années.
Les fêtes de famille, voilà. On raconte les 30 glorieuses, Lee Shulman.
Voilà. C'est ça. Je pense que c'était l'après-guerre. Souvent, on voit ce moment-là qu'il y avait un sort de... En États-Unis, en tout cas, c'était un peu l'âge d'or, on dit l'American Dream un peu. Et on voit beaucoup ça dans les photos, c'est marrant. On parle beaucoup des choses rétro, Mad Men et comme ça, mais on voit vraiment un mode de vie à l'américaine qui était assez exceptionnel.
Et en même temps, on ne voit qu'un mode de vie, puisque on voit essentiellement des blancs américains de classe moyenne. Et pourquoi ? Parce que c'est ceux, André Günther, qui ont accès au matériel photographique et au matériel de projection des diapositives à cette période-là, où il y a quand même encore un coût, certes, qui a baissé.
Non, non, tout à fait. Voilà, là, il y a vraiment un tri social hein, qui s'effectue par rapport effectivement à la disponibilité et au prix du matériel. Alors, il faut peut-être revenir une seconde sur ce caractère aussi quand même très très visible de ces diapositives et de la couleur. Vous avez insisté hein, sur la dimension de la couleur.
Alors, c'est l'une des caractéristiques. Elles sont en couleur.
Elles sont en couleur et les couleurs sont très saturées. Hein, elles sont un peu comme boostées. Et vous voyez aujourd'hui avec Instagram sur les applications numériques, il y a des filtres hein, qui augmentent un petit peu le contraste en particulier des images. Mais le Kodachrome est effectivement un type d'image où les couleurs sont saturées et donc ça donne cette caractéristique très particulière qui nous surprend, qui nous prend quand on regarde ces images qui sont très présentes à cause effectivement de cette densité très particulière de la couleur. Je trouve que ça donne cette qualité de présence dans lorsque les images sont soit projetées, soit agrandies. Il y a aussi cette différence hein, il y a quelque chose d'étrange dans la diapositive entre cette toute petite image transparente qui est un peu difficile à voir, qu'il faut regarder en transparence de près, etc. Et l'espèce d'explosion iconographique qu'elle produit lorsqu'elle est montrée en grand format, dans son soit en projection, soit en agrandissement.
Alors d'autant plus que là, le matériel numérique permet de la voir à nouveau sur écran et de retrouver finalement l'origine de la diapositive qui est censée être vue aussi projetée. On retrouve quelque chose de ce geste-là.
C'est comme à travers un écran, ou si vous voulez, d'un autre côté, c'est comme si on revenait, si on rentrait un peu dans le quotidien de ces personnes, avec cet effet de proximité qui est effectivement très particulier à la diapositive.
Alors, pour revenir sur la question du geste, Lee Shulman, en ayant acheté ces diapositives, en ayant récupéré, en ayant collecté, est-ce qu'au début, vous vous êtes fait justement, alors collecter certes, mais il y a un côté récupérateur, on pourrait même dire braconnier. C'était ça le geste ?
Un peu. Moi, je suis un peu un collectionneur obsessionnel. Hein. Ça vient de ça. Et en fait, ce que j'adore, c'est une histoire de chasse d'or. Moi, j'adore mettre mes mains dans les boîtes et regarder et trouver les pépites dedans. C'est comme un chasse à l'or, comme ça. Mais je trouve que c'est vrai que quand je commence à acheter, j'achetais beaucoup et j'arrête pas. Et chaque fois, il faut savoir que dans la collection, on a collectionné 700 000. Mais dans notre collection actuelle, on a regardé chacun et dans la collection, il y a 12 000. Donc, on a fait un tri assez monumental. Il y a un grand non-choix qu'on n'a pas mis dans la collection.
Et beaucoup de dons.
Il y avait des dons aussi. En fait, au début, c'était les achats et par rapport à la presse, on a commencé à avoir des dons qui étaient géniaux. On a eu quand même des gens d'États-Unis et même en Angleterre, parce qu'il faut pas oublier qu'on a quand même un parti d'Angleterre, pas mal. On a trouvé quand même des diapos un peu partout. C'est sûr que la majorité c'est américain, mais on trouve pas mal en Angleterre. Mais les gens nous ont envoyé des dons, des chez eux. Même ils étaient dans les marchés. Ils ont dit dans les marchés, ils chinaient pour nous. Mais ça arrive tous les semaines, c'est génial.
Quel a été votre point de vue, Emmanuelle Alkin, en tant qu'éditrice, sur ces photos, alors certes données, vendues, mais qui posent quand même un certain nombre de questions de droit à l'image, de droit, même y compris des personnes décédées, de questions de droit d'auteur aussi, d'intimité de la famille qui se retrouve divulguée d'une manière ou d'une autre. Ça pose des questions éthiques autour de la photo, de ce que l'on fait des photos, même si d'un autre côté, on les archive et on les conserve.
Alors oui, évidemment, en tant qu'éditrice, je ne peux pas dire le contraire. J'ai été très sensible justement au droit à l'image sur ces photos.
Sensible, ça veut dire quoi ? Vous avez fait quoi ?
Ben, je me suis posé la question. C'est-à-dire, je me suis dit, en termes de droit, comment on va se positionner, comment Anonymous Project va fonctionner. Au final, la majorité des images que nous utilisons au quotidien, notamment sur tout ce qui est production de livres et d'éditions, voilà, ce sont des images ancienne, pour lequel je pense la majorité des personnes ne sont plus désormais.
Mais il y a toujours des ayants droit, il y a toujours des descendants.
Il y a toujours des ayants droit, nous avons eu, parce qu'il y a beaucoup de projets autour de la photo amateur qui sont confrontés au même problème, notamment en France. Et nous avons eu quelques retours de personnes qui ont contacté Lee, notamment, sur des photos assez connues que nous avons, un petit peu plus récentes, qui datent des années 70. Et on a été très étonnés, parce que le retour des gens qui se découvrent ou qui découvrent leurs grands-parents sur les images sont toujours étonnamment positifs. Et nous ont systématiquement dit que c'était un honneur pour eux d'être dans la collection, c'était un honneur pour eux que ces images oubliées soient justement retrouvent une seconde vie, soit dans un fond, soit dans un projet artistique. Alors, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour nous aurons une mauvaise surprise, hein, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais pour le moment, nous avons eu vraiment que des retours positifs, et même des gens qui nous disaient « je ne connaissais pas cette image, je l'ai découverte », notamment une image du fond qui est assez connue, on a trois bodybuilders.
Alors sur oui, c'est l'image de Serge Nubret, hein, qui a été identifié sur les réseaux sociaux, Lee Shulman. Racontez-nous l'histoire.
En fait, c'est une histoire super, parce qu'en fait, j'ai reçu un mail d'une fille qui m'avait dit, entre les deux bodybuilders, il y avait un blond bodybuilder un peu plus petit que les autres,
et qui me dit...
La moustache, et il me dit c'était mon copain à l'époque, et elle m'a mis en contact, et il m'a écrit un mail, et il m'a créé un super mail très très émotif, disant que je me souviens de ce moment-là, parce qu'il y avait Serge Nubret, qui était un grand bodybuilder à l'époque, avec un autre bodybuilder, je me souviens pas son nom, qui était aussi un bodybuilder connu de cette époque, et en fait c'était un jeune culturiste, et il était très fan de ces deux héros, donc il se posait entre ces deux héros, et il me dit que ma vie a commencé à ce moment-là, j'ai décidé d'ouvrir des salles de sport, j'ai créé ma vie, et il nous a créé une lettre très émotive, donc il me remercie pour retrouver cette image, qui est un peu debout de sa carrière professionnelle.
André Günther, on voit que justement, à la fois d'un point de vue artistique, c'est-à-dire la question du statut de la photo amateur vis-à-vis de la photo professionnelle, là ce sont les rencontres d'Arles, c'est une manifestation, un festival prestigieux, important, dans lesquels ces photos sont exposées justement aux côtés des photos professionnelles, et la question à la fois des droits, mais aussi les droits d'auteur, qu'est-ce que ça pose justement comme question vis-à-vis de ce monde de la photographie ?
Mais là, on est vraiment face à la question des anonymes, et à la question du consentement, qui est devenue aujourd'hui très importante à cause de la photographie numérique. Si vous voulez, la grande différence entre les albums, les photos trouvées, les albums collectionnés d'autrefois, aujourd'hui, quand un internaute poste son image sur Instagram, elle est signée. On sait qui a fait la photo.
Alors là, c'est les réseaux d'ailleurs qui ont permis de retrouver les noms des personnes photographiées.
Absolument.
Mais à double tranchant.
Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre, la photo numérique a changé, a fait évoluer notre rapport au consentement. Autrefois, si vous voulez, pour aller très vite en schématisant, les photographes professionnels étaient moins attentifs, je dis moins, hein, c'est en termes de plus ou de moins, à la question du consentement, et on n'était pas aussi regardant sur qui a fait l'image, qui risque de la voir, une des photos les plus célèbres du photojournalisme, qui est l'image de la petite fille au napalm, la Napalm Girl, photographiée par Nick Hutt en 1972, c'est une photographie, on n'a pas demandé l'autorisation à la petite fille de la publié nu dans tous les journaux du monde entier. Donc autrefois c'était comme ça. Le professionnel avait cette espèce de droit de regard et pouvait s'approprier l'image des gens. Avec donc le numérique et où aujourd'hui toutes les images sont signées, on sait maintenant qu'il y a des gens derrière les images, qu'il y a des gens qui peuvent revendiquer effectivement une histoire. Et donc le fait que ces questions se posent aujourd'hui montre que on a une nouvelle sensibilité face à la propriété de ces images. Alors maintenant, ce qu'il faut évidemment bien comprendre, c'est que là, on n'est pas dans le cadre d'un projet ethnographique ou anthropologique. C'est un projet artistique. Donc, vous avez employé le terme Emmanuel de seconde vie. Hein, voilà, c'est une relecture, c'est une autre vie des images.
Alors d'ailleurs, puisqu'on parle de seconde vie, qu'est-ce qu'on peut dire de ce deuxième geste artistique, le premier geste qui est un geste amateur et le deuxième geste qui est un geste professionnel qui vient poser son regard sur le geste amateur et vient finalement retrouver une esthétique peut-être un peu perdue dans ce monde numérisé, qui est celle d'une photographie ancienne qu'on va utiliser en même temps sur un écran puisqu'elle est numérisée et qui va retrouver quelque chose de cette couleur-là d'époque.
Alors je trouve que ce qu'on entend bien dans les récits que nous font Lee et Emmanuel, c'est l'idée que ces images inspirent quelque chose, inspirent des histoires, inspirent notre imaginaire, dans cette seconde vie, hein, dans cette autre forme maintenant d'existence, d'exploitation de ces images qui les transforment, y compris iconographiquement, en changeant leur format, etc. Alors là, il y a quelque chose de très important, de très intéressant pour l'historien de la photo. Si vous voulez, il faut bien comprendre que les photographies en général et les photographies amateurs en particulier, elles vont toujours avec un récit. Elles vont toujours avec une histoire. Quand vous ouvrez votre album photo en famille avec des amis, vous racontez ce que les images montrent. Un album tout seul ne si vous voulez fonctionne qu'à moitié. Il y a les images.
Et il y a les légendes.
Une partie. Et il y a des légendes où il y en a pas. Dans beaucoup d'albums, il n'y a pas de légende ou très peu, et en tout cas ou une date. Donc on est très souvent face à des images qui manquent la moitié de l'histoire.
Alors ça, peut-être Lee Shulman.
Et donc du coup, voilà, c'est ça le ressort de l'inspiration, c'est-à-dire que là, on se trouve effectivement face à des images muettes, anonymisées, il n'y a pas de date, il n'y a pas de nom. Du coup, on est comme porté à produire, à reconstituer l'histoire, et chaque image devient comme une sorte d'énigme policière.
Alors ce creux d'ailleurs devient créatif, hein, voilà, ça va absolument être l'histoire d'ailleurs d'un projet littéraire collectif, Emmanuel Alkin, il va y avoir cette histoire de famille qui va être publiée au mois d'octobre avec des récits d'auteurs.
Voilà. Ouais, alors ça c'est vraiment un projet qui nous tient vraiment à cœur avec Lee.
Alors Arnaud Catherine, Justine Lévy, voilà, qui vont écrire des histoires à partir de ces photos, dont
exactement
on sait très peu de choses.
Voilà, donc en fait c'est un projet un peu fou de collection, donc littérature photo. Et l'idée, c'était avec Lee, on a constitué des corpus d'images qu'on a donné un petit peu à Arnaud Catherine et à Justine Lévy, en leur donnant un petit peu carte blanche et pour eux de produire un récit qui peut être une nouvelle, qui peut être aussi des petits textes. Voilà, et c'est un peu des récits qu'on a créés à quatre mains, nous en leur donnant du matériel iconographique et eux en écrivant. Donc c'était vraiment un projet passionnant sur lequel on a travaillé cette année. Voilà. Donc il y a deux ouvrages.
Lee Shulman, il y a plusieurs choses qui sont inspirantes, à la fois la création de personnages par ces photos, puisqu'on sait très peu de choses. Parfois, il y avait quelques informations données sur les photos que vous avez récupérées.
Oui, souvent on voit un peu les infos. De temps en temps, on a même une lettre dans les boîtes. Les boîtes sont magnifiques, déjà, ils arrivent. On a eu différentes histoires des différentes boîtes. De temps en temps, il y a des petits.
Des dates
dessus. Et de temps en temps, des petits noms des gens que derrière. Mais nous, on avait quand même décidé à un moment donné, est-ce qu'on avait commencé à mettre les dates dessus, mais par exemple, on a décidé qu'on ne voulait pas mettre trop d'informations par rapport aux images.
Alors, parce qu'il y avait marqué quoi? Anniversaire de mamie?
Oui, c'est pas très anniversaire. Souvent, c'est les vacances. Fred and Bob at the lake, comme ça. C'était vachement des trucs très intimes et très marrants. Donc, un peu drôle. De temps en temps, on a des commentaires, les petits commentaires. Pas grand-chose. Honnêtement, faut savoir que la plupart, il n'y a rien. Qu'il n'y a pas d'informations comme ça. Et c'est vrai, de temps en temps, on a des intrigues énormes. On a reçu en boîte qu'on adore, qu'on s'appelle The Lover's Box, qu'on a reçu en boîte, magnifique en cuir. Et dans cette boîte, il y a une histoire d'amour d'un couple qui se prend en photo. Et en plus, c'est extraordinaire cette histoire parce qu'on ne connaît pas qui ces gens. C'est dans les années 50. Et c'était, à un moment donné, on ne comprend pas parce que c'était des moments très, très intimes, tu vois. Ils s'embrassent, ils dansent ensemble. Et en fait, on a réalisé petit à petit qu'ils faisaient les premiers selfies. En fait, ils avaient
un déclencheur
de timing. Et ils se mettent en scène. Ils faisaient des mises en scène entre eux. Et c'était une boîte assez extraordinaire. Mais c'est une histoire qu'on adore. Et nous, on a parlé qu'on adorait trouver un peu qui c'est ces gens. Trouver un peu plus d'informations sur ces gens-là.
Alors, en même temps, ce que fait l'anonymat, c'est que, il retire l'aspect intime et remet dans le lot commun du collectif. Et là, ces images deviennent justement documentaires d'une certaine
voilà,
manière.
C'est une histoire de mémoire collective. En fait, moi, j'ai toujours fondé ces projets comme une sorte de mémoire collective des gens. Et en fait, ces projets qu'on fait à ce moment, c'est beaucoup d'idées d'approprier des images. Nous, on trouve ça très important que nous, on est un peu le gardien de ces images, mais les gens s'approprient ces images. Donc, c'est des images. On parle d'une collection, mais quand on dit c'est mon collection, c'est pas vraiment mon collection, c'est une collection qui appartient à tout le monde dans un sens.
Alors, je vous propose d'écouter Gaël Chauss qui parle de l'histoire de Viviane Meyer. C'était sur France Culture le 4 mars dernier.
pour l'inventeur, en fait, de Vivian Maier, au sens de l'inventeur du trésor, puis de la légende. Il s'agit de cet homme, un agent immobilier qui va se trouver confronté à des milliers de photos, de pellicules non développées. Et ces photos vont quand même attirer son regard, même s'il s'avoue de lui-même complètement ignare, béotien, néophyte en matière de photos. Puis comme il a aussi envie un peu de récupérer sa mise, qui l'aimerait bien savoir ce que ça vaut, ce qu'il a trouvé, il va les poster sur des réseaux sociaux et il va en vendre aussi. Et les retours sont évidemment élogieux, dithyrambiques, enthousiastes. Donc il va comprendre qu'en fait, il a trouvé un trésor. Et à partir de ce moment-là, il va employer toute son intelligence, son énergie, ses moyens pour faire reconnaître au monde entier, à l'Amérique tout d'abord, ce trésor qu'il a trouvé. Alors ça ne va pas être forcément simple, parce qu'il va se heurter un peu à l'establishment du monde photographique qui refuse de reconnaître quoi que ce soit dans ces photos. C'est d'abord une question d'éthique. Est-ce que, à titre posthume, on a le droit de créer une œuvre? Et puis aussi parce que, dans l'œuvre photographique, le tirage fait partie de l'œuvre. Or, Vivian Maier a très peu tiré de photos, et ces photos tirées ne sont pas d'excellente qualité.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit, André Günther? C'est cette histoire, alors, qui est l'histoire merveilleuse de Vivian Maier, de l'œuvre qui naît a posteriori. C'est aussi l'histoire de cet Anonymous Project. C'est justement l'histoire du tri, de la mise en valeur et de l'esthétisation, en tout cas, de la possibilité de découvrir ces images là qui ont leur esthétique et leur histoire.
Voilà. Alors, il y a évidemment un écueil dont il faut se méfier, qui est une vision un peu primitiviste, qui était le rapport qu'on pouvait avoir, par exemple, au début du XXe siècle, à l'art nègre ou aux autres formes qui étaient valorisées, réappropriées par les artistes modernes. Mais parfois avec une certaine forme de condescendance. Alors, donc ce risque, il est toujours là. Il faut y être attentif. Mais là, je pense que la question se pose différemment, en particulier parce que on a affaire pas à des formes, à quelque chose qui est à l'origine une forme d'art, mais qui est bien une forme documentaire, hein, comme vous l'avez dit. Et l'autre chose, c'est que, pour revenir un instant sur la notion d'anonyme, il existe à l'IMEC, à l'Institut des Mémoires de l'édition à Caen, une collection très intéressante qui conserve les archives des écrivains, des philosophes et des auteurs. Et dans cette collection, il garde souvent, pas toujours, les photos et parfois d'autres formes de documents, des disques, des bandes enregistrées de ces auteurs. Et donc là, on a affaire à quelque chose de très intéressant qui est des corpus qui mélangent les photos privées de ces écrivains, de ces auteurs, avec les photos professionnelles,
officielles,
voilà, qui sont faites à l'occasion de telle ou telle sortie d'ouvrage, etc. Et évidemment, alors d'une part, ces gens-là sont connus, c'est pas des anonymes, mais évidemment ils font les mêmes photos que tout le monde fait les photos des anonymes. Hein. C'est pas parce qu'on est célèbre qu'on ne fait pas ces photos-là. Et l'autre chose qui est très nette, c'est cette différence et le fait que chacun se raconte ses histoires avec la photographie, mais il y a plus de richesse dans nos histoires personnelles que dans la vision un petit peu stéréotypée, hein, qui est produite évidemment d'une façon plus normalisée par les professionnels.
Alors c'est aussi la question de l'image reçue, l'image renvoyée. Là, les photos présentées sont légendes, elles deviennent d'une certaine manière archétypales aussi, parce qu'elles sont anonymes. Ça devient des personnages de leur temps, de leur époque, de leur géographie. D'ailleurs ce projet est international, vous l'avez expliqué, les Schulman, ils ont une origine américaine, mais maintenant ils existent dans plusieurs pays du monde.
Oui, c'est sûr.
En Asie.
On n'a pas beaucoup d'Asie, malheureusement, mais c'est vrai, l'Europe.
Royaume-Uni.
Mais en Royaume-Uni, énormément. C'est vraiment un support collection qu'on avait en États-Unis. je pense que les Anglais, c'est quand même les frères des Américains, ils ont approprié un peu les technologies. Et en Europe, on trouvait aussi un peu, pas en France, et aussi en Allemagne, un peu en Europe. Aussi, on trouvait, en fait, les gens qui voyageaient à l'époque. Donc, on a eu même un lot qui vient de Nigérie, c'est ça? De Niger? Du Niger, avec la famille, il y avait une famille africaine qui avait l'air d'avoir un bon moyen.
Des Ghana.
Voilà, c'est une famille des Ghana qui est géniale. Et la famille des Ghana, ils ont pris plein de diopos autour de leur soirée. Et on sentait que c'était une famille un peu de richesse, ils avaient du moyen. Il y en a même, voire posé avec des lingots d'or, comme ça, qui travaillaient. Et une histoire de leur famille traditionnelle, aussi, partie de très occidentale aussi.
Alors, on parlait de la représentation, effectivement, avec un tri social qui est fait. On voit aussi beaucoup de femmes sur les photos. Alors, est-ce que c'est qui tient l'appareil photo, qui est représenté? Nils Schulman, ça pose question.
Oui, ça pose question. Et en même temps, moi, à un moment donné, ça m'a posé beaucoup de questions quand on voyait que des femmes dans les photos. Et j'ai dit, mais c'est quand même l'appareil photo. Et après ça, il y a quand même un truc que je trouve, c'est sûr que c'était les machines et hommes. C'était un monde. Mais après, c'est dans ces images que je trouve, avec la femme, que j'attendais pas, qu'on voit les femmes très libérées, en fait, par rapport de ces images. On voit en train de boire par terre avec des cigarettes, en train de s'éclater, vraiment passer des moments extraordinaires entre filles, comme ça. Et en fait, c'est aussi ça. Moi, je pense que, aussi, on voit même si les femmes sont vraiment dans l'image, et c'est les hommes qui prennent beaucoup les photos, je pense que il y avait quand même une histoire de femmes libérées aussi, un peu.
Alors, c'est aussi l'histoire des mœurs qu'on retrouve Emmanuel Alkin à travers ce projet. Ici, à Arles, c'est la maison qui est justement une des déclinaisons du projet, qui est présentée à Arles. Alors, qu'est-ce que vous avez fait justement pour retranscrire cette atmosphère de foyer et des liens qui s'y tissent?
Le projet The House qu'on a présenté à Arles, l'origine, c'est vraiment une expo qu'on a fait à l'espace Beau Repère il y a un an et demi, où on avait eu cette idée de reconstruire, de faire une reconstitution en fait d'une salle de projection. C'est-à-dire que les gens puissent revivre la projection à l'ancienne. On s'assoit dans le canapé, voilà, on est dans une ambiance un peu tamisée, un petit peu avec une déco un peu désuète, voilà.
Qui fait partie de l'histoire des diapositives.
Exactement. Et le succès était tellement fou, mais même pour les plus jeunes, nos propres enfants, Ali et moi, nos filles étaient complètement étaient sous le charme, et même des plus jeunes, qu'on s'est dit, mais l'idée ce serait d'aller plus loin et de faire une maison. Donc c'est le projet qu'on a proposé à Arles. Et l'idée aussi était vraiment de réfléchir sur la maison, ce qu'elle représente, pourquoi elle est au cœur de nos vies. Et il y avait une très belle notion qui a un petit peu plus de sens en anglais, mais qu'on a essayé de décrire aussi en français, c'est la différence entre the house et home, c'est-à-dire une maison et chez soi, vraiment le foyer, et qu'est-ce qui s'y passe, et quelle est la différence entre les deux.
Alors c'est l'histoire des liens qui se tissent, hein. D'ailleurs c'est une histoire très universelle que vous racontez dans l'aspect non légendé des photos, voilà. Nils Schulman.
Oui, absolument. Dans cette expo, on a décidé de vraiment faire vivre toutes les expériences qu'on s'est trouvées dans une maison par rapport aux différentes pièces. On a reconstruit carrément la cuisine, qu'est-ce qui se passait dans une cuisine, qu'est-ce qui se passait dans la salle à manger, qu'est-ce qui se passait en fait, on voulait parler vraiment de ce qui se passait dans cette maison-là, parce que la famille, c'est toujours au cœur de ces images. On est dans une histoire familiale comme ça. Mais c'est vrai que quand on rentre chez nous, on ferme la porte. C'est un moment très intime, donc on essaie de créer, dans notre fond, on essaie de recréer un sort de chemin, un sort de voyage dans ce qui se passait dans la maison.
André Günther, ce que l'on voit en observant ce projet, c'est que finalement, on photographie, en tout cas en tant qu'amateur, un peu toujours les mêmes choses depuis l'histoire du XXe siècle jusqu'à nos jours, c'est-à-dire les grandes cérémonies, les fêtes de famille, les anniversaires, les moments joyeux.
Là, vous me lancez sur un sujet sur lequel on a encore 2 heures devant nous.
À peu près, non. À peu près 8 minutes.
Il y a 2 choses. Il faut, à partir du moment où il vous manque le contexte d'une image, donc je répète, il manque la moitié de l'histoire, évidemment, cette image, elle va devenir l'objet d'une projection. de la part du spectateur.
Au sens psychanalytique du terme.
À tous les sens que vous voulez, mais on est obligé de reconstituer l'histoire. C'est le type d'exercice que Lee et Emmanuel proposent. Donc il y a cette part du spectateur qui peut évidemment conduire à normaliser, à stéréotyper les images. Ça a été très souvent quand même l'approche de l'image d'amateur. Quand vous lisez le premier grand ouvrage de sociologie de Pierre Bourdieu consacré à la photographie amateur, Un art moyen, en 1965, eh bien effectivement, on a ce type de caractérisation où Pierre Bourdieu nous explique qu'on photographie surtout les mariages, les grands événements, etc. Et on voit bien que là, c'est une vision qui normalise un ensemble qui est en réalité beaucoup plus varié, beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche. Et c'est quand on regarde véritablement chaque image pour elle-même, à l'intérieur de chaque image, il y a des histoires qui peuvent être énigmatiques. Et ces énigmes nous sollicitent. Et ça, c'est une autre vision qui montre que il y a énormément d'informations dans les images photographiques. Nous racontons tous nos histoires avec la photo. Il y a beaucoup d'informations dans ces images. Et voilà, le fait que ces images restent inspirantes, que ces images amateurs, anciennes, continuent à produire cet effet d'impulsion imaginaire aujourd'hui, voilà, c'est la preuve de cette richesse d'informations. Et donc, revaloriser la production vernaculaire, comme le fait ce projet, c'est très important.
Alors, il y a aussi la question de l'histoire du lien. On parlait de The House, le projet qui est présenté aux Rencontres d'Arles. C'est aussi les liens des personnes du foyer que l'on retrouve à travers les photos. Et alors, vous parliez des photos prises isolément, mais Emmanuel Elkin, ce que l'on voit aussi, c'est des photos entre elles, c'est-à-dire celles d'un enfant pris à chaque âge et qui finalement que l'on voit grandir à travers la photo. Les photos.
C'est aussi une chose dont on n'a pas parlé encore. Voilà, c'est qu'on sélectionne. Donc parfois on recrée des histoires avec des images qui viennent de pays différents, de d'époques différentes. Voilà.
Et parfois il y a des séries.
Et de temps à autre, comme l'histoire de la Lover's Box, on a parfois et notamment une des premières boîtes qu'on a eues, qui est une boîte absolument magnifique, qui date des années, qui commence, je pense, au début des années 60 et qui va jusqu'au milieu des années 70. Fin 70 même, et on a 20 ans de l'histoire d'une famille. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de lots, comme ça avec Lee, qu'on découvre, où on a vraiment l'histoire complète d'une famille. On voit un enfant qui devient un adolescent, puis qui se marie, et on a même parfois, je raconte souvent cette histoire qui m'avait un petit peu marquée à l'époque, tout au début du projet. Je regarde pour la énième fois un lot que j'avais déjà vu déjà plusieurs fois, et je découvre qu'en fait un espèce de road trip dans les parcs américains au début du lot, il y avait une photo d'un homme dans un cercueil à la fin, et je me rencontre en fait avec mon compte-fil que l'homme dans le cercueil était celui du début.
Donc il y avait vraiment une histoire qui était au début du projet même de la photo. Quoi.
Donc on avait vraiment toute la vie, enfin une partie de la vie de cet homme. Et c'est vrai que quand on tombe sur des lots de ce type, on peut pas rester. Voilà, on a toujours un moment d'émotion très fort. On a toujours des moments.
Lee Shulman, finalement, ce que l'on voit des photos à la fois en ligne, dans les livres ou dans les expositions, c'est la partie immergée de l'iceberg, puisque au fond, c'est tout le trajet de ces photos qui vous intéresse.
Oui, absolument. C'est pour moi, souvent les gens disent, c'est quoi le but de ton projet? Et j'ai dit qu'il n'y a pas vraiment but. En fait, c'est parce que en fait, les photos arrivent, on les regarde. Et après ça, on commence à les associer, on crée des projets avec et on les fait approprier par les gens. Et en fait, on leur donne une deuxième vie, mais peut-être plus qu'une deuxième vie. Ils commencent à voyager eux-mêmes, en fait. Et ça, je souhaite vraiment que ces images, ils arrivent toutes les semaines, qu'on continue ça et qu'on retrouve un peu... Moi, il y a un truc, je pense qu'Emmanuel a parlé beaucoup, et c'est très important, qu'on se trouve toujours un peu nous dans ces images.
Alors cette projection, puisqu'on parlait tout à l'heure de projection avec André Günther, peut-être pas dans le même sens du terme, puisqu'on parle de pulsion aussi, on parle de pulsion scopique, il y a le plaisir de celui qui regarde, et de celui aussi qui donne ces photos, ça aussi, ça fait réfléchir toutes ces photos et ces dons qui arrivent directement sur les étagères de Lee Shulman et d'Emmanuel Elkin.
Alors ça, c'est un problème qui est
C'est pas un problème, c'est une interrogation en tout cas.
Bah, vous savez, quand la photographie numérique est arrivée, on a dit toutes ces images qui sont virtuelles, qui sont fluides, elles vont se perdre. On ne sait pas comment les conserver. Autrefois, une photographie, c'était sur du papier, c'était quelque chose de physique.
On les gardait, même si ça s'abîme quand même.
Alors voilà, exactement. En réalité, on conserve très peu. On a conservé très peu de choses de notre patrimoine photographique, aussi bien professionnel, artistique qu'amateur. Alors amateur a plus forte raison. On a évidemment perdu beaucoup plus d'images qu'on en a conservées. Alors première chose, par rapport à ça, c'est toujours important d'avoir un geste de conservation, y compris une collection. C'est très bien. Les collectionneurs ont alimenté les historiens de la photographie depuis l'origine. Ces tentatives, ces expériences, elles vont à l'encontre de la perte de l'image, parce que voilà, au fond, le destin, je dirais naturel entre guillemets, malheureusement, des images, c'est d'être perdu. Donc s'opposer à ça, c'est important. Et donc les gens qui donnent effectivement ces photos dans l'espoir qu'elles connaissent une seconde vie, qu'elles soient réutilisées, c'est une bonne illustration de ce type de choses. Souvent, si vous voulez, les gens qui donnent, ce ne sont pas ceux qui ont pris les photos ou ceux qui sont sur les photos. Souvent, c'est la deuxième génération qui voudrait que cette mémoire soit conservée ou donne lieu à une nouvelle appropriation.
Alors là, il y a un intérêt aussi technologique. Hein, les nouvelles technologies ne sont plus en concurrence avec les anciennes. Elles viennent au contraire les préserver, Lee Shulman.
Exactement ça. Souvent, les gens dit à nous, vous devrez aimer que le analogue, vous détestez le digital, mais c'est pas vrai. Moi, je suis un grand geek, j'adore le digital, et en fait, c'est le digital c'est tout ce qui est numérique qui nous a permis de faire ce projet. Donc, un bon partie de préservation des diapos, c'est de les scanner et de les garder en trace, quand même. Donc ça, je trouve qu'ils sont très, très, très amis, ces deux technologies.
Alors, sur cette question, justement, narrative des histoires, puisqu'on disait que ces photos, c'était toujours des histoires en creux, est-ce que vous avez eu envie aussi de produire de la fiction filmique, par exemple, à partir, vous qui êtes réalisateur, Lee Shulman?
Pas trop, peut-être, pourquoi pas.
On y pense, mais
je pense qu'en première vue, on avait un projet de documentaire, et c'était pas mal, de faire un sort de road trip, comme on voit souvent dans les photos, quand souvent on a des grands road trips dans nos...
Américains.
Et prendre un ou deux boîtes qui nous inspirent vachement et partir sur la route avec les boîtes, essayer de retrouver qui c'est ces gens, les communautés, parce qu'on voit souvent les communautés qui ont vachement changé, on a des images de communautés qui maintenant, qui sont complètement à l'envers de ce qu'ils étaient, et vraiment faire un enquête sur cette mode de vie.
Anthropologique alors.
Anthropologique aussi, oui.
Ouais. Rechercher les gens des photos, c'est ça?
Oui, mais trouver, même si on ne trouve pas les photos, trouver au moins les communautés autour, trouver un peu les types de gens qui habitaient dans les mêmes quartiers, comme ça, et voir ce qui a changé.
Merci à tous les trois d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que l'exposition The House est à voir aux Rencontres de la photographie de Arles jusqu'au 22 septembre et aussi à la Gare de Lyon de Paris. Il existe également un catalogue de l'exposition publié aux éditions Textuelles et un site internet anonymous-project.com.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change. De guerre, cette vie que j'habite, quitte. Je cours partout, je m'ennuie vite. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, démaquillé le noir à mes yeux, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh, oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh, oh, ôté le rose à mes joues.
Et on écoute Clara Luciani, Nu ou l'abbé, issue de l'album Sainte Victoire, sortie en 2018. Ce soir, elle sera en concert à Saint-Florent, puis le 22 août à Guéret et le 25 août à Namur, en Belgique. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture. Si vous nous rejoignez, c'est la seconde partie de la Grande Table d'été avec pour invité le photographe Christian Lutz. Une enseigne lumineuse surplombant une rue déserte, deux dormeurs gisant au milieu de canettes vides en costume de Disney, un homme en robe de mariée assis sur un trottoir. Le photographe Christian Lutz expose à Arles la grandeur et la décadence des Eldorado de la mondialisation. Las Vegas l'a déchu et Macao le nouveau mirage. Il est aujourd'hui l'invité du portrait de la Grande Table d'été. Bonjour Christian Lutz.
Bonjour.
Alors quelle était cette idée de titre, Eldorado? Il ne s'agit pas vraiment de la ruée vers l'or, mais plutôt des paradis de la mondialisation, c'est ça?
Ou du moins du déclin ou de la défaite lors de la ruée. Et en tout cas, c'est clairement le cas sur le point de vue que j'aimais sur Las Vegas. Qu'est-ce qui se passe lorsque on tente sa chance, on pense pouvoir, si pas seulement s'enrichir, trouver du travail, mais qu'on se retrouve face à un système capitaliste délétère et qu'on n'y parvient pas. Donc c'est un déclin, en fait, c'est une désillusion d'un Eldorado scintillant. Ça, c'est pour la partie américaine. Et sur The Pearl River, sur Macao, eh ben, c'est une répétition d'une illusion. Donc c'est désillusion et ensuite de nouveau une illusion d'un Eldorado qui scintille et qui scintille vraiment aujourd'hui.
Alors qui a été transporté finalement à un autre coin du monde? Il y a cette idée de résonance quand même, de globalisation que l'on retrouve, et pourtant l'esthétique est bien différente. D'un côté ça scintille avec des couleurs un peu à l'ancienne, et un Las Vegas qui s'est finalement transformé en une sorte de désert, en tout cas où on a le sentiment que plus rien ne fonctionne.
Oui, tout du moins lorsque vous parlez d'esthétisme, c'est mon regard, l'intention, le parti pris, ce que j'ai décidé de donner à voir, qui est clairement plus scintillant ou scintillant, mais de manière très tremblante, avec des teintes un peu assommées pour Las Vegas. Et puis, cette vision-là ne s'exprime pas encore en Asie, pas à Macao. Donc là, il y a effectivement une vision, une esthétique qui est très aseptisée, comme ça, très lissée. Mais globalisation, il y a clairement, hein, dans les espaces, non seulement de jeu, mais les espaces de consommation sont très identiques. Les constructions architecturales, indéniablement la manière dont on achète, qu'est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on achète, les scénographies de magasins, etc. On ne sait plus trop où on est d'un côté ou de l'autre lorsqu'on y est. Clairement, pour Macao, on n'a plus tellement de signes de la Chine, encore moins de la partie colonialiste portugaise. Donc il y a une globalisation.
C'est la standardisation aussi des grands hôtels, des casinos que l'on retrouve.
Oui, puis aussi, encore une fois, la manière dont on achète le luxe, mais ça, on le sait, c'est assez foudroyant. Lorsque j'étais à Las Vegas, ça remonte maintenant à pas mal d'années, j'avais rencontré un groupe de Chinois qui s'empressaient d'acheter des blousons de cuir d'une marque de luxe, mais ils les achetaient dans ce qu'on appelle un outlet à Las Vegas, au sud de Las Vegas. Et ça a quand même dormir debout, puisque ces vêtements sont fabriqués en Chine. Ils voyagent jusqu'aux États-Unis pour qu'ils les ramènent ensuite en Chine. Donc là, c'est plus vraiment de la globalisation, ça devient une espèce d'apocalypse de notre consommation.
Alors côté photo, on peut peut-être dire quelques mots des scènes représentées. Il y a d'un côté une esthétique du casino que l'on connaît aussi de par le cinéma américain, qui là finalement représente un peu les oripeaux du passé, Las Vegas. On a l'impression que vous photographiez le vide ou les restes.
Pas que, il y a quelques contre-pieds. Il y a quelques contre-pieds qui donnent à voir justement cette notion d'illusion à laquelle je ne crois plus, à laquelle bon nombre d'entre nous ne croit plus non plus. Mais il y a encore clairement des signes de ce que Las Vegas a été. Le problème, c'est que ça ne va plus du tout. Si on ouvre un peu les yeux, c'est ce que disent la plupart des gens. Alors vous pouvez rester sur ce qu'on appelle le strip à Las Vegas, et puis vous pouvez vous amuser dans les espaces intérieurs, vous rendrez compte de rien. Mais après, on le sait, mais on le constate aussi ici à Paris ou dans d'autres grandes villes, des rejets du système capitaliste. Qu'est-ce que ça donne comme spectacle urbain? Ils sont souvent très très difficiles à soutenir.
Et Las Vegas... justement, vous, c'est ça que vous décidez de photographier. C'est des photos souvent prises dans la rue, des photos de rue, des photos de nuit pour beaucoup d'entre elles, pas toutes.
Clairement, oui. C'est un registre photographique de photographie de rue. Et clairement, c'est un parti pris. Je crois que c'est le propre de la photographie documentaire qui n'est pas forcément celle du photojournalisme. C'est qu'on peut avoir un point de vue subjectif, personnel, et pour exprimer la notion de désillusion des valeurs du système capitaliste qui règne à Las Vegas. J'ai décidé effectivement de tramer une histoire qui se déroule dans la rue et souvent avec un objectif pointé sur ceux qui n'ont plus rien.
Alors il y a beaucoup de photos de sans-abri, beaucoup de photos de gens qui dorment et finalement Las Vegas devient un décor. Un décor d'ailleurs un peu étrange, et cette photo d'un homme avec sa couverture de survie et derrière ce grand écran avec une femme refaite, dénudée, comme ça, avec des
symboles. J'ai pas grand chose à rajouter sur les images lorsqu'elles sont décrites. Oui, il y a principalement des images comme ça, mais il y a des contre-pieds aussi, il y a des contre-pieds intérieurs, comme ça.
Ah, mais avant de dire les contre-pieds, racontez-nous quand même le cœur, c'est-à-dire souvent des images explicites, sur le vif.
Après qu'on parvient à décrire jusque certaines mesures, parfois il y a une donne, comme je disais tout à l'heure, subjective, ou tout du moins, tout n'est pas clairement explicité. Il y a, vous disiez tout à l'heure, qu'on voit des personnages déguisés dans un costume de Disney, c'est ça? Donc on a la symbolique, et des gens ont vu là des gens qui faisaient vraiment la fête et qui étaient complètement ivres au sol. D'autres ont vu des sculptures, ou du moins des choses qui ne sont pas animées. Moi je sais ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là, donc il y a cette donne-là qui est peut-être pas si claire que ça, et qui permet justement à l'imaginaire d'agir. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse dans la photographie du réel, c'est qu'elle est destinée aux imaginaires du regardeur.
Alors il y a des photos qui semblent en tout cas prises sur le vif, vous allez nous en dire plus, Christian Lutz, c'est-à-dire que le regard n'est pas souvent face caméra, et c'est des photos qui sont cadrées presque un peu comme des portraits, même si souvent on voit ce qui se passe autour. Racontez-nous comment vous les prenez, ces photos. Est-ce que vous prévenez? Est-ce que vous ne prévenez pas? Est-ce que c'est une discussion que vous avez après?
Non, c'est le propre de la photographie de rue, c'est qu'on est en interaction avec les éléments, j'allais le dire. Donc les citoyens, les êtres humains sont pour moi très souvent des éléments d'un système ou les victimes d'un système. Donc c'est des déambulations qui se passent à pied, des heures durant, des nuits durant, et lorsqu'on marche beaucoup, ben vous avez peut-être fait cette expérience où vous avez ensuite vous êtes dans un état un peu physique particulier, tout en gardant le sens de l'observation très en éveil, et à ce moment-là peuvent apparaître des choses, effectivement des apparitions, des scènes de rue. Et celle-ci apparaissait peut-être à raison de 2 ou 3 reprises par nuit. Et c'est celle-ci que j'ai capturée, que j'ai ensuite, nuit après nuit, ou petit matin après petit matin, éditée, ou tout du moins présélectionnée dans la chambre d'hôtel, en écoutant de la musique, en restant dans l'obscurité, en faisant de mes séjours de Las Vegas quelque chose de très... très profond, très très entier, mais assez décalé du réel.
Donc il y a un système d'imprégnation personnelle, et ensuite vous attendez quoi? Vous attendez qu'il y ait quelque chose d'accidentel qui se passe au moment où vous prenez des photos?
C'est difficile à décrire. On n'attend pas vraiment. On est tout le temps en alerte. Donc il y a des choses qu'on photographie et d'autres choses qu'on photographie aussi. Et d'autres choses qu'on ne photographie pas. Et parmi les choses que l'on photographie, tout à coup, il y a effectivement quelque chose qui peut se passer. Mais c'est pas de l'ordre de la pêche ou de la chasse. C'est comme peut-être un musicien qui serait à la recherche d'une juxtaposition de notes, de tenter de créer un son. Et ce son, il peut se créer nuit après nuit en déambulant dans un état un poil particulier.
Alors sur cette question-là, je vous propose d'écouter Jeff Wall. C'était le 31 mai 2011.
All my pictures have a starting point. Have as a starting point some accidental experience. I never make plans to make pictures. I just let things happen and hope for the best. I had noticed in the streets of Vancouver.
Mes photos démarrent très souvent par un événement accidentel. Ce n'est pas quelque chose de planifié. J'attends et puis j'espère que quelque chose sortira, quelque chose se passera. Alors ici, vous voyez sur cette photo des gens qui sont devant un nightclub. Moi, je me suis rendu compte très souvent à Vancouver que devant les nightclubs, les bars, les gens qui font la file pour rentrer, il y a des vendeurs de roses ou de fleurs qui essayent de se faire un petit peu d'argent. Et ils espèrent qu'avec la nuit qui avance, les gens un peu bu un peu plus et peut-être qu'ils seront plus attirés par l'achat des fleurs. Alors vous voyez ce vendeur-là, pour moi, il m'est apparu comme un personnage de Baudelaire. Il avait quelque chose là, il était dans un monde social, mais isolé dans ce monde social.
Christian Lutz, est-ce que vous vous sentez proche de ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous avez comme ça des apparitions de personnages devant votre objectif?
J'ai bien aimé la notion de non-plan. Et la notion de non-plan, elle peut fonctionner à partir du moment où on est dans une hyper-attention, dans un moment de l'absolu présent, en fait. Et c'est ça qui permet de donner un sens quand même à ce que l'on fait, parce que sinon on pourrait se dire, la photographie c'est quelque chose de très accessible, ce qui est vrai, hein. Tout le monde est en mesure de réaliser une image, d'attraper une image en fonction de ce qui se passe sous ses yeux, mais après de tramer une histoire, d'en réaliser plusieurs. Ça demande effectivement de ne pas avoir de plan autre que de se rendre dans un certain nombre de lieux, de se laisser aller à une forme d'attention extrêmement affirmée. Et après, peuvent surgir des choses heureuses, malheureuses, mais qui font sens par rapport au fait qu'on se destine à aller dans ce lieu-là à un certain moment.
Christian Lutz, est-ce que vous parlez aux gens que vous photographiez? Est-ce que vous leur demandez l'autorisation avant? Est-ce que vous leur demandez après? Est-ce qu'ils savent que vous les photographiez? Ou est-ce que vous conservez justement cette sorte d'anonymat, de photos un peu prises sur le vif, un peu sauvage?
Mais il y a toutes sortes de scénarios. Il n'y a pas de recette type. Ce que disait Raymond Depardon lorsqu'il réalisait sa correspondance new-yorkaise. Début des années 90, se faire heure. Donc il y a parfois on se cache, on prend une photo qui pourrait être considérée comme volée. Parfois on fait une image et on part en courant parce qu'elle peut déplaire. Parfois on peut faire une image parce qu'on connaît les protagonistes, on connaît leur histoire. Et c'est à la fin, au moment de la restitution des images, qu'il faut être en phase avec l'histoire qu'on a à raconter. Donc pour vous répondre, il y a des gens que je rencontrais nuit après nuit, qui pensaient d'ailleurs que je pouvais être comme eux, retrouvé à la rue et que je pouvais avoir eu une vie auparavant qui était celle d'un photographe, au même titre que d'autres gens avaient encore leur guitare, car ils étaient musiciens et continuaient à faire quelques sous en jouant de la guitare dans
la
rue.
Ça, c'était où? C'était à Las Vegas.
Ouais, là, je vous parle que de Las Vegas. J'ai l'impression qu'on est encore aux États-Unis. Macao, ce sera un autre scénario. Encore que ça reste de la photographie de rue aussi. Mais les États-Unis proposent cela, c'est qu'il y a une liberté d'expression qui demeure envers et contre tout. Il y a une liberté de l'individu d'exister. Il faut être très, très délicat lorsqu'on dit ça, parce que les gens existent mal quand ils sont à la rue. Mais il y a une autonomie, il y a une possibilité de regarder les gens aux États-Unis qu'on a un petit peu moins ici dans nos cultures. Il y a beaucoup moins de gêne. Lorsque le livre est sorti, j'ai reçu deux emails de gens qui ont reconnu des personnages à la rue et ils m'ont fait part de leur reconnaissance d'avoir porté un regard sur cette réalité-là. L'un d'entre eux n'était plus à la rue, il est rentré à la famille, etc. Lorsqu'on reçoit ce genre d'emails et que ça proviendrait peut-être d'une culture qui est la nôtre, on on aurait peut-être un peu d'appréhension. On se dirait, tiens, là, on va me reprocher quelque chose par rapport à cette notion de droit à l'image. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre la manière dont on fait les images et le moment où on les restitue. Au moment où on les restitue, il faut être en adéquation avec une donne humaniste, si on a une.
Alors, au moment où on fait les images, est-ce qu'il vous arrive de participer à une forme de mise en scène, de demander de refaire un geste, de refaire un mouvement ?
Non, non, ça je fais pas, non. Peut-être que j'y arriverai un jour, mais j'adore la photographie du réel. Je découle de cette école de la photographie de Cartier-Bresson où il s'agissait de figer l'instant décisif à un moment donné avec une composition qui soit très stimulante graphiquement pour l'œil. Donc j'adore le réel. Donc je ne demande pas à construire.
Alors il y a peu de regards face à la caméra. Est-ce que c'est pour cette raison-là face
Il y en aura beaucoup à Macao. À Macao, il y en a plusieurs. Pour une raison particulière, c'est que j'avais envie qu'on sente l'intrus occidental, dans ce monde oriental qui est en train de répéter un scénario.
C'est pas la caméra, c'est vous qui regarde. C'est vous l'intrus.
Oui. Après, il peut y avoir une nuance, mais le regard caméra, il est très présent. S'il existe, s'il y a un regard caméra, il faut qu'on sache pourquoi est-ce qu'il demeure. Parce que le portrait, c'est peut-être la partie la plus noble de la photographie, au sens où on raconte quelque chose de quelqu'un par un regard, c'est très difficile à maîtriser. Donc si un regard est préservé dans l'une de mes histoires, il faut que le regard ait véritablement un sens narratif. Alors qu'on peut, comme je le disais tout à l'heure, mais là c'est aussi un point de vue très délicat, il y a certaines personnes qui partagent pas du tout cette idée, lorsqu'il n'y a pas de regard, l'individu est davantage assimilé, encore une fois, à un système. Il est élément d'un système.
En tout cas, il y a une forme, il y a une manière de rendre la chose aussi un peu anonyme, puisque à certains moments, on voit le bas d'un corps, par exemple. Je pense aux jambes de cette jeune femme debout sur le comptoir à Las Vegas, et on a le sentiment finalement que cette femme correspond à cet univers d'argent aussi, où elle devient elle aussi un produit, où elle n'a même plus de visage, elle n'a même plus d'identité.
Clairement. Ben là, de nouveau, j'ai rien à rajouter à ça, effectivement.
Si, vous avez décidé du cadrage jambes.
Parce que la description que vous faites, effectivement, le corps de la femme est transformé en marchandise, clairement. Il est sur un comptoir. Il est, si pas à vendre, à se saisir au même titre qu'on se saisirait d'une chope de bière juste à côté.
Ouais. Et pire que tout, aucun regard n'est sur elle dans cette photo.
Ouais, parce qu'il y a d'autres choses à faire à Vegas. Il y a peut-être un concert, il y a peut-être une fille encore plus aguichante là-bas, mise en scène de manière encore plus pathétique qu'on regardera. On est pris de boisson parce qu'il se passe autre chose, parce qu'on est dans une surabondance de la consommation.
Christian Lutz, ce que l'on remarque aussi, c'est le travail sur la lumière. Je vous propose d'écouter Philippe Lorca et Eddy Cortia en parler. C'était sur France Culture le 24 février 2004.
It's strange because I try to, if not eliminate,
c'est étrange parce que moi j'essaye, peut-être pas d'éliminer, mais d'effacer ma présence des photos que je prends. C'est pourquoi elles ont peut-être un aspect cinématographique. La raison en est la suivante.
The best form of expression.
Je crois vraiment que la meilleure forme d'expression doit être indirecte. Ma présence ou une expression autobiographique, quelle qu'elle soit, limite la possibilité d'interprétation multiple. Et je crois, très honnêtement, que le monde est très difficile à identifier, à cerner, et qu'une photographie ne peut pas être analysée de façon certaine.
Christian Lutz, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit par Philippe Lorca Eddy Cortia ?
Ça rejoint un peu ce qu'on abordait tout à l'heure avec la notion subjective, au sens où on n'a pas de réalité, on n'apporte pas même un témoignage. Moi, je sais que mes images témoignent de réalité de manière intrinsèque au sujet abordé par les images que j'ai réalisées, mais cette intention-là n'en est pas une, en tout cas, c'est pas la mienne. Et après, ça ressurgit, on essaye bien plus, effectivement, par un langage visuel, vous parliez d'esthétique tout à l'heure, de s'adresser, il dit un peu la même chose, on s'adresse à l'imaginaire, alors on essaye de limiter les possibilités d'interprétation, ça c'est très très important. lui, il le fait en soi, c'est comme ça qu'il l'explique, en se soustrayant de la vision qu'il pourrait donner en n'étant pas présent par son approche cinématographique très intéressante. Ça veut donc dire que l'image est mise par un auteur et ensuite elle est cadrée par des apports formels pour qu'elle ait un message qui soit quand même lu ou tout du moins une impression qui soit reçue.
Alors, c'est aussi la manière dont on marque soi-même sa photographie. Est-ce qu'il faut qu'il y ait toujours une forme de continuité? Ce qui change le plus, on a le sentiment d'une photo à l'autre, en tout cas d'une série de photos à l'autre, dans vos projets. Alors, il y a Eldorado, et il y a dans Eldorado, c'est en réalité deux projets qui ont été mélangés. Vous avez parlé de The Pearl River, et il y a le projet de Las Vegas. Il y a un changement très fort entre les couleurs. C'est la lumière peut-être qui change le plus d'un projet à l'autre.
Oui et non, la lumière, il faut la maîtriser au sens, si vous faites peut-être référence à Tropical Gift, le travail que j'avais fait sur le pillage des ressources premières au Nigeria, la forme, elle vient toujours servir un fond. Donc clairement, pour le projet Tropical Gift qui se déroule donc en Afrique, je ne voulais pas donner une image qui soit celle d'une Afrique dans laquelle on a envie de se rendre en vacances, donc pas des couleurs très très agréables, mais j'avais envie d'enfoncer les couleurs dans quelque chose qui pourrait donner l'impression qu'on est dans le pétrole, que tout est un peu pollué.
Quelque chose un peu cauchemardesque, d'une sorte de brume permanente.
Voilà, donc ça c'est une intention formelle. Après, on aurait pu prendre une autre direction. C'est une histoire d'équilibre aussi. Il faut jamais en faire trop. Hein. Il faut pas que ce soit le contraire. Il faut pas que la forme prenne le dessus sur le fond. Ensuite, Las Vegas ou Macao, ce sont des endroits qui sont déjà très très affirmés en termes de couleurs et encore une fois de mise en scène, de scénographie, de boutique. Donc c'est vrai que c'est un travail de post-production assez précis pour être juste en adéquation, pour amener encore une fois le regardeur dans quelque chose qui soit en lien avec ce qu'on a envie de lui raconter. C'est un équilibre à trouver, mais pour ça je suis pas tout seul. Je salue d'ailleurs Patrick Schrantz, mon collègue lithographe, séparateur de couleurs depuis 10-12 ans maintenant.
Alors il y a un deuxième projet qui est proposé justement aux Rencontres d'Arles, c'est In Jesus Name, mais là il s'agit de tout autre chose, Christian Luce, puisque vous avez suivi les membres de l'International Christian Fellowship, c'est-à-dire d'une église évangélique basée à Zurich.
Mm-hmm.
Et ce projet-là est présenté en même temps dans une autre galerie. Qu'est-ce que vous avez voulu faire à travers ce projet ?
Alors c'est un projet qui est balafré, c'est un projet blessé, c'est un projet qui bat de l'aile compte tenu du fait que c'est un
qu'il projet... Qu'il a fait l'objet d'un procès, c'est voilà. Pour ça que vous dites ça ?
Oui, et de la manière dont il est montré, clairement, il est balafré au sens où voilà, ce troisième projet, In Jesus Name, venait clore une trilogie que je faisais sur le pouvoir, d'abord politique, avec protocole. Économique, Tropical Gift dont on vient de parler, In Jesus Name sur le religieux. J'ai travaillé en immersion là, alors pour le coup très en interaction avec les protagonistes avec lesquels j'échangeais beaucoup. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils faisaient qu'à l'âge de 40 ans, tout à coup on décidait de se baptiser, etc. Là, il y a beaucoup de regards caméra d'ailleurs dans l'histoire. Il y a beaucoup d'histoires d'individus dans NG.
Et d'intimité. Et d'intimité.
Ouais, on peut d'ailleurs débattre sur la notion d'intimité parce qu'en même temps, cette intimité qui m'a été donnée à voir, elle est toujours très publique. Elle est souvent liée au prosélytisme. Les églises sont ouvertes pour attirer le chaland parce que c'est de l'ordre de l'émotion. Donc la donne d'intimité est intéressante. Justement, on n'a pas pu l'aborder au procès parce qu'on n'y a pas été. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque le livre est sorti, les managers de l'église n'ont pas aimé le point de vue photographique que j'ai porté sur l'église. Ils pensaient que j'allais réaliser un rapport d'activité sur leur église, mais alors que j'ai juste fait mon travail.
Ils ont voulu le faire interdire. Interdire le livre.
Mais ils sont parvenus, ouais, ils ont réussi à demander à plus d'une vingtaine de protagonistes du livre de bien vouloir porter plainte contre l'éditeur et moi-même. Et l'éditeur a jeté l'éponge parce que les joutes sont cinglantes. En Suisse, si vous avez joué au Monopoly, c'est les cases bleues, c'est les avocats, c'est à coup de 500, 600, 700 euros de l'heure. Donc l'éditeur a très vite pris peur et le procès n'a jamais vraiment eu lieu. Par contre, on a réutilisé artistiquement les descriptions d'images qu'en ont fait non pas les protagonistes photographiés, mais clairement l'avocat qui a été mandaté par l'Église, et puis vraisemblablement le directeur de communication de l'Église. Et c'est intéressant de constater qu'ils en disaient davantage que ce qu'il y avait dans les images. Donc les images sont balafrées de ce contenu des plaintes avec un rapport de force comme ça entre texte et image où l'image essaie de passer à travers la typographie du texte. Donc c'est ça me convient, ou du moins ça me disconvient, au sens où je ne légende jamais mes images. Et là, parce que les images ont été de cette manière-ci légendées ou racontées, un juge s'est dit, il doit y avoir un problème, donc on interdit ce livre. Voilà la présentation.
Christian Lutz, du coup, est-ce que c'est pas finalement l'incarnation même du projet de la trilogie sur le pouvoir que d'y être soi-même confronté en tant qu'artiste?
Ça ouvre d'ailleurs sur effectivement un quatrième volet, le judiciaire. Ouais, bien entendu que là, il y avait cette donne
qui est en cours, le judiciaire?
Trois petits points.
Trois petits points. Et sur cette question justement de la trilogie, le protocole était plutôt lié à la question politique. Comment est-ce qu'on photographie ce qui est codifié?
Dans le premier élément, dans le protocole, oui, c'était le tout premier. C'est réalisé en 2003 et 2007. Ça a duré assez longtemps.
Du président suisse qui partait à New York.
Oui, entre autres. Disons que je me suis glissé dans les bagages, effectivement, du ministre de l'Intérieur en Suisse, Pascal Couchepin, qui était un homme très ouvert d'esprit et qui a permis à ce genre de projet d'exister. Ça devient très très rare que les gens se défassent un peu de toute tentative de maîtrise de la communication et qu'ils se disent, ah ben tiens, on peut peut-être inviter quelqu'un qui fera un travail autour de ça. Et du coup, je me suis effectivement intéressé non pas à lui, mais bien plus à la manière dont il pouvait être parfois mis en scène, comment est-ce que ça se déroulait, quels étaient les seconds rôles, troisième rôle, les décorums, etc. Donc ça a fait l'objet d'un livre qui met un peu en théâtre, c'est clairement le cas, le monde du politique.
Alors à travers justement le politique, Tropical Gift au Nigeria, justement sur cette histoire de pilleur d'or noir, est-ce que le politique, l'économique et le religieux, il y a cette volonté complètement englobante de la photo, en tout cas dans votre projet, Christian Lutz, de vouloir tout traiter?
Non, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Jeff Hall, on n'a pas vraiment de projet, c'est avec l'éditeur qui est le même, Lars Müller, qui a édité les trois ouvrages, qu'on s'est rendu compte à la fin du deuxième ouvrage que ça pourrait faire une trilogie. Non, ce serait prétentieux. Moi, j'opère pas de cette manière-ci. Et de toute façon, il y a pouvoir partout, donc on pourrait ne pas s'arrêter. Donc à chaque fois, c'est des intentions. Effectivement, j'étais à New York en 2003 au bénéfice d'une résidence d'artiste et j'ai vu le déploiement sécuritaire autour du président de la Confédération suisse à New York. Je me suis dit, c'est une histoire à raconter, c'est une blague. Un président suisse en Suisse se promène en métro, en tram ou à vélo avec un tel déploiement des Secret Services américains. Je vais en faire une histoire. Et après, j'ai été piégé par les premières images que j'ai réalisées. Je procède toujours comme ça. J'ai une intention, une volonté. Je sens qu'il y a peut-être quelque chose à raconter. Et après, je réalise une première ou une deuxième image très forte, desquelles je peux être comme pris en otage. Et après, il s'agit de les accompagner. C'est comme ça que j'ai mené ce premier projet.
Merci beaucoup, Christian Lutz. Je rappelle qu'Eldorado est à voir jusqu'au 22 septembre à la Maison des Peintres et In Jesus' Name à la Galerie Fichet d'Arles jusqu'au 31 août prochain. Je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été.